Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Donc on va continuer l'émission avec Xavier Ridon qui est parmi nous pour nous parler de ce projet qui semble assez dangereux de fusionner l'audiovisuel public et qui a déjà donné lieu à 2 jours de grève, une pétition massive, à une tribune dans Le Monde. Est-ce que vraiment il y a un danger qui pèse sur l'audiovisuel public avec cette réforme ?
Bonjour Graziella. Oui, c'est sûr, il y a une vraie menace, surtout qu'il y a une volonté. Alors là, je parle peut-être en termes syndical pour le syndicat des journalistes CGT. Il y a une volonté de la part du gouvernement et de Rachida Dati, qui semble être quand même en mission commandée l'objet de cette fusion. Et il y a un objectif du gouvernement d'aller très vite. Le calendrier imposé, encore une fois, vraiment très important, puisque ça a commencé à être évoqué dès la nomination effectivement de Rachida Dati, cette volonté d'aller sur la construction d'une holding, donc pour l'année prochaine, début d'année prochaine, début 2025, puis sur la fusion qui serait opérée entre les différents. Alors il y a quatre grosses organisations, institutions qui seraient fusionnées potentiellement. Radio France, avec toutes les radios qui vont avec, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Move, les France Bleues. Voilà, il y a aussi potentiellement du coup France Télévisions avec toutes les chaînes du groupe France Télévisions. Il y a l'INA. Et puis il y a France Média Monde, dont on vient d'entendre notamment le journal, puisque c'est Radio France Internationale notamment. Il y a cette fusion qui est envisagée qui serait souhaitée en entreprise unique pour le 1er janvier 2026. Mais ça veut dire que tout ça, il faut réussir à le faire passer très rapidement. Donc dès juin, là, dès ce mois-ci, on devrait, normalement le projet devrait être regardé du côté de l'Assemblée nationale. Mais même avant ça, il y a une petite fusion, même sans que ce projet puisse être voté à l'Assemblée nationale, il y a une fusion déjà qui va s'opérer. On appelle ça les synergies, hein, en bon langage, mais c'est celle entre France Bleu et les France 3, qui vont avoir une nouvelle marque, puisque c'est le terme consacré désormais, qui s'appellerait ICI. C'est déjà un nom qui est un petit peu utilisé dans les pubs de la part de France Bleu, c'est de s'appeler ICI, avec une application commune qui s'appelle ICI, et qui est donc censée être le journalisme local, l'info locale, la production de médias locaux, et qu'on a déjà vu, en tout cas, ceux qui regardent ou qui écoutent France Bleu le matin, s'ils n'écoutent pas la Clé des Ondes, ce qui est mal, bien entendu, mais ce qui peut arriver par erreur, des fois, ou ceux qui regardent France 3 région, et ben ils voient que c'est la même matinale entre France 3 et France Bleu. Il y a eu cette bascule, alors ce qui fait que France Bleu, c'est plutôt France Bleu qui pour le coup a la main là, d'un point de vue éditorial, mais c'est-à-dire qu'il y en a un autre qui n'a pas la main, en l'occurrence du coup c'est France 3, qui diffuse la matinale de France Bleu. Alors d'ailleurs on peut s'interroger sur la qualité de la diffusion, puisque c'est fait à des moyens qui sont assez bas en plus tout ça. Donc ça, là j'ai vu que Rachida Dati ce week-end a évoqué l'ORTF, elle avait des bons souvenirs de l'ORTF parce que ça avait permis les dossiers de l'écran, et donc si on refait les dossiers de l'écran et l'ORTF, ben potentiellement, c'était l'exemple qu'elle faisait, l'ouvrier va pouvoir se cultiver en regardant les dossiers de l'écran, et ce sera formidable. Comme si en fait, France Télévisions et Radio France ne faisaient pas aussi un travail d'éducation populaire. On peut rester, bien sûr, à la question, reste critique sur plein d'aspects éditoriaux que peut avoir ces deux groupes de l'audiovisuel public. Mais il n'empêche qu'il y a un boulot de qualité qui est fait. Et puis c'est aussi quand même un contrepoids énorme face aux 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias actuellement. Là, les médias privés, ils veulent en plus supprimer la pub des médias publics, parce qu'ils trouvent que c'est quand même concurrence déloyale. Donc en ce moment, les médias privés se frottent les mains du projet qu'il y a, parce que ça déstabilise tout. On a supprimé à l'audiovisuel public il y a deux ans la redevance, ce qu'on appelait la redevance. Depuis, on reste sur un financement qui est basé sur la TVA, qui est assez flou, il n'y a pas quelque chose de pérenne du tout qui s'est construit. Là, on déstabilise toujours, et c'est les syndicats qui le disent, dans la grande intersyndicale qui s'est montée au sein de France Télé et de Radio France notamment, enfin, et aussi France Média Monde, et l'INA, bien sûr, une grande intersyndicale qui le dit, il y a une déstabilisation qui est souhaitée, qui est construite de l'audiovisuel public. Alors, l'un des autres objectifs, quand même, et là, c'était un maître de conférence spécialisé dans la question des médias qui nous le disait juste avant, avec qui on s'entretenait, il y a cette volonté de faire des grosses structures. Pour essayer d'être concurrentiel au niveau international ou européen. On a fait des grandes régions, c'était aussi pour être concurrentiel au niveau européen. On veut faire des fusions d'universités pour avoir des grosses universités pour être concurrentiel aussi. Bon, bah là, potentiellement, et c'est un des trucs qui est vanté, c'est de dire il faut monter une BBC à la française, c'est des grandes images comme ça. Alors qu'en fait, le rayonnement de l'audiovisuel public, il existe déjà. Si RFI se fait couper les micros quand il y a des révolutions dans les pays en Afrique, c'est notamment parce que l'audiovisuel français rayonne. C'est une réponse, bien sûr, au rayonnement de l'audiovisuel français de la part des peuples qui veulent ne plus entendre peut-être la doxa occidentaliste de RFI potentiellement, mais il n'empêche que c'est bien une preuve aussi de l'importance de ces médias que ça a et son rayonnement. Donc ce rayonnement, il existe. De la même manière, l'INA est reconnue pour son travail d'archives, c'est une évidence. Les travaux qui sont faits, quand bien même, tout en restant critique, ce qui peut exister dans l'éditorial public, de l'audiovisuel public, il reste une grande qualité qui est reconnue. Les caches investigations, les envoyés spéciales, le travail d'Élise Lucet aujourd'hui sont des choses qui sont reconnues, même y compris les émissions de divertissement qui peut y avoir, où la diversité peut avoir lieu, contrairement à d'autres médias tenus par des milliardaires. Donc, c'est sûr qu'il y a une volonté gouvernementale. Il est fort probable que Rachida Dati, en tant que ministre de la Culture, soit commandé pour mener à bien toute cette fusion. Donc, à partir de là, les armes de la lutte, elles sont des deux côtés, c'est-à-dire dans l'audiovisuel public, il y a les journées de grève dont tu parlais, Graziella, fortement suivi avec quand même quasiment aucune émission qui avait été produite les jours J. Il y a bien sûr à l'extérieur les auditeurs, en fait les citoyens, c'est au-delà de si on écoute ou pas, c'est ce qu'on veut, ce pluralisme de l'audiovisuel public. Et il est évident que oui, quand même à la clé des ondes, on va défendre nous ce qu'on produit dans nos émissions. Il est évident qu'on se battra de la même manière qu'on recevait le salaire de FIP quand il y avait des destructions des locales de FIP. Ben on soutiendra évidemment Mordicus, les salariés de Radio France, de France Télé, de l'INA, de France Média Monde qui vont se battre. Et donc il y a une pétition qui existe, qui est en plein boom, puisque je crois qu'elle était à 14 000 ce week-end, elle est à 54 000, m'a dit le collègue Baptiste là à l'instant. Et il y aura probablement des actions, il faudra penser aussi des actions de soutien. Il y a quelques années de ça, quand Daniel Mermet, aux pratiques managériales détestables, s'était fait virer de France Inter. Et qu'il y avait un resserrement de la liberté d'expression, de la liberté éditoriale avec la fin de la Bastille J'y suis. Il y avait une opération qui était de l'air à France Inter qui avait été lancée par le journal Fakir à l'époque. Il y avait eu des mobilisations un peu partout pour dire on a besoin d'émissions comme Mermet en faisait avec la Bastille J'y suis. Là, il y a toute l'équipe de Mermet qui se fait dégager de France Inter. On voit bien que Guillaume Meurice, sans doute aussi, son sort est scellé. Tout ça arrive au même moment, c'est sans doute aussi dans l'idée d'une tension générale qu'il faut provoquer pour évacuer les éléments les plus gauchisants de l'antenne. Mais en fait, il faut défendre ce pluralisme coûte que coûte. Et clairement, il y a un enjeu du côté des citoyens, des auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, de ces chaînes, de se mobiliser et d'être en solidarité, en soutien avec les grévistes.
Ben, je crois que c'était très intéressant et on y voit beaucoup plus clair. Et on pense quand même qu'il y a une logique de fond qui est d'en finir avec les services publics. Et c'est vraiment une autodestruction. Et ce projet-là, il est exactement à la même aune que ce qui se passe dans la santé, dans l'éducation, dans tous les services publics. Et on a affaire quand même à des meurtriers, pour moi.
Et il y a un dernier mot à ajouter aussi là-dessus, c'est que même du côté des anciens ministres, tous sont opposés à cette fusion. C'était très intéressant. Il y avait eu la commission d'enquête sur les fréquences TNT qui s'était tenue et qui avait reçu tous les anciens ministres pour parler de l'évolution de la TNT, comment ça s'était passé, etc. Puis il y a eu une question venant d'une députée de macroniste sur la fusion. Et en fait, tous les ministres de droite ou de gauche, entre guillemets, socialiste de l'époque, ou même macronistes, ont pu désinguer l'idée d'une fusion. Roselyne Bachelot, par exemple, disait le coût des économies, on ne citera pas souvent le Roselyne Bachelot à l'antenne de la Clé des Andes, mais ça arrive. Le coût des économies de gestion générées par les holdings, on ne va plus me la faire, on va acheter un super immeuble qu'on peuplera avec un président qui aura une voiture de fonction et on mettra tout ça à feu et à sang. Ou alors la macroniste Rima Abdul-Malak, qui était la ministre juste avant Rachida Dati,
tout à fait.
Avait dit également lors de cette commission, j'en était arrivé à la conclusion que cette holding préalable à une fusion n'était pas indispensable. Et où Jacques Toubon, Renaud Dieu de Vabre, Fleur Pellerin, qui était elle ministre sous Hollande, tous ont dit, les anciens ministres, en fait, cette holding puis cette fusion envisagée n'a aucun sens. Donc, il y a les salariés qui sont contre. Il y a certaines, parce que la présidente de Radio France n'est pas franchement non plus hyper pour, elle se sent un peu faire tordre le bras au final là-dessus, bien qu'elle essaie de virer Guillaume Meurice, hein, voilà. Les auditeurs, auditrices, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment pour. Les salariés, clairement, ils sont contre. Il n'y a plus qu'à s'opposer en masse.
Merci beaucoup, Xavier Ridon. Bonjour Clémence.
Bonjour, c'est Bouchra.
Ah, c'est Bouchra, pardon. Je croyais avoir affaire à Clémence de l'UNEF, mais c'est Bouchra. Eh bien, c'est très bien, Bouchra. Donc, j'avais pensé interviewer l'UNEF, qui est un syndicat étudiant, pour avoir des infos sur ce qui est en train de se passer à l'Université Michel-Montaigne autour des élections, de l'élection du président. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, en effet, aujourd'hui, on est dans une impasse. Enfin non, il y a le conseil d'administration qui est censé élire le président de l'université pour les 4 années à venir. Et actuellement, à l'Université Bordeaux-Montaigne, on se trouve dans une situation d'impasse puisque le conseil d'administration qui s'est réuni il y a 2 semaines, le 21 mai, n'a pas pu élire un président. On s'est retrouvé à 15 voix contre 15. Et... dans un conseil d'administration où, par ailleurs, les collectivités territoriales n'ont pas pris part au vote, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sous administration provisoire.
Et tu peux expliquer pourquoi ce blocage ?
Je peux. Pour élire un président d'université, l'arrêté électoral demande à ce qu'il y ait une majorité absolue sur l'ensemble des membres du CA, ce qui fait qu'il faut 19 voix pour que l'un des deux candidats soit élu, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas.
D'accord. Et donc, il y avait un souci avec, je crois, ce que vous aviez appelé un candidat un peu ultralibéral, ou je ne sais pas exactement comment vous aviez un peu caractérisé, qui avait une inquiétude au niveau de qui allait devenir président.
Alors, vous faites allusion à notre communiqué du 22 mai.
C'est ça.
C'est ça. Dans ce communiqué, on a souhaité avoir une démarche sérieuse et rigoureuse. Donc, on a comparé les deux candidats, à la fois sur leur bilan, parce qu'ils ont occupé des responsabilités au sein de l'université au cours de cette dernière décennie. Monsieur Alexandre Perrault était directeur de cabinet entre 2016 et 2020. Aujourd'hui, il est directeur de l'UFR Humanité, qui est l'une des composantes de l'établissement. Et Monsieur Larré, quant à lui, est président de l'université depuis, était président entre 2020 et 2024. Donc, ils ont occupé des fonctions, donc ils ont un bilan. On a comparé les bilans, mais aussi leur programme pour les 4 années à venir. Entre autres également sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, puisque c'est un sujet qui a
qui est assez sensible
cette année à l'Université Bordeaux-Montaigne. Mm-hmm. Donc on a comparé tous ces éléments-là, et c'est en se fondant sur cette comparaison-là qu'on a fait notre choix de vote pour l'un des deux candidats lors du conseil d'administration.
D'accord. Et donc, les soucis que vous avez, c'est en lien avec des moyens qui ne seraient pas donnés, notamment concernant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Pas forcément, c'est pas sur la question des moyens, parce que la question des moyens, du manque de moyens, je pense qu'elle fait consensus dans l'enseignement supérieur de manière générale.
Oui.
Une association réunissant plusieurs présidents d'universités, enfin plusieurs universités, a fait un communiqué interpellant le ministère sur la question des moyens. Mais là où il y a débat et sur cette question-là, ce qui nous a permis de trancher, c'est qu'on a rencontré les deux candidats au mois d'avril avec leurs équipes. On leur a posé des questions sur un certain nombre de revendications sur diverses thématiques, mais aussi sur la question de la lutte contre les VSS, puisque c'est un sujet qui a marqué notre université cette année. Et là où Lionel Larrey nous a fait des réponses très claires et a répondu favorablement à l'ensemble de nos revendications sur le sujet, son adversaire Alexandre Perrault s'est montré très vague en donnant peu de réponses concrètes, ce qui pose problème justement dans un contexte où l'université est très mobilisée sur ce sujet et dans un contexte où d'ailleurs il y avait un blocage à propos de ça, à cette période-là, on a aussi pris en compte du coup, ce qui s'est passé pendant le blocage et les engagements que Lionel Larrey a pris auprès des étudiants mobilisés qui ont bloqué l'établissement. Engagements qu'il a d'ailleurs d'ores et déjà commencé à mettre en œuvre, dès le déblocage.
D'accord. Et donc, comment tu penses qu'on va sortir de cette crise institutionnelle à Bordeaux-Montaigne ?
Alors, nous avons un autre conseil d'administration qui se réunit mercredi, là qui arrive, le 5 juin.
D'accord.
Il faut que l'ensemble des membres du CA vote, mais encore une fois, il y a toujours cette question de la majorité absolue. Tant qu'on n'atteint pas 19 voix, on restera sous administration provisoire.
D'accord. Et est-ce que ça a des conséquences pour la vie de Bordeaux-Montaigne, cette administration provisoire ?
Oui, parce que on peut potentiellement partir sur une administration provisoire pour plusieurs mois. Et ce qui fait que toutes décisions considérées d'ordre politique ne se pourront pas mettre mises en œuvre puisqu'il n'y a pas de direction politique, dans le sens où, par exemple, pour les recrutements d'enseignants, pour ce qui est des questions de budget, tout ça, c'est des choses qui se décident en conseil d'administration en fonction de ce qui est présenté par un président et son équipe. Mais si on n'avons pas de direction politique, c'est très compliqué de mettre ça en œuvre.
Et est-ce que l'UNEF
mais à minima.
Est-ce que l'UNEF a décidé de proposer des actions aux étudiants pour mettre fin à cette situation qui est quand même totalement anormale ?
Alors, ce n'est pas les étudiants eux-mêmes qui pourront mettre fin à cette situation, c'est les membres du conseil d'administration. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Moi, je ne sais pas si vous allez faire pression d'une façon ou d'une autre.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, est-ce que vous allez appeler à des rassemblements devant la réunion du conseil d'administration pour exprimer votre mécontentement par rapport à cette situation ?
Je ne suis pas certaine que ce soit par cela.
D'accord. Vous n'êtes pas encore prêt.
On a informé les étudiants de ce qui se passe dans le conseil parce que c'est notre devoir de rendre des comptes à nos électeurs de ce qu'il se passe. Là, on est dans un contexte de fin d'année où il y a les partiels, les rattrapages.
Et oui, il y a tout ça qui se passe.
Sur le campus.
Oui, je comprends bien. Bon, mais Bouchra, on vous remercie beaucoup à la Clé des Ondes pour ces informations. Et puis, bien entendu, qu'on suivra l'affaire. Voilà. Merci Bouchra.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour Alain Rayet.
Bonjour, la Clé des Ondes. Bonjour, Gabriela.
Voilà, donc Alain Rayet, co-secrétaire de la FSU Gironde, qui est un syndicat qui s'occupe de l'éducation, entre autres, et des services publics. Et après avoir fait une intro sur les menaces qui pèsent sur l'audiovisuel public, sur l'université Montaigne-Bordeaux 3, nous allons maintenant parler de ce qui est organisé dans les établissements scolaires contre le choc des savoirs. Et je crois qu'il y a eu donc deux actions qui se sont passées le 25 et le 30 mai. Et ça serait important, Alain, que tu nous expliques la démarche.
Oui. Tout d'abord, oui, pour vous placer dans un contexte plus général, on est de plus en plus persuadé que on a un gouvernement qui veut liquider tous les services publics, la SNCF, la santé, l'école. Voilà. Donc, en fait, c'est créer des conditions de travail et des conditions pour les usagers de plus en plus difficiles et pour se retourner vers un service privé. Hein, donc on est vraiment dans ce contexte-là. Bon, alors, ce qui s'est passé là, ce qui se passe aujourd'hui, on a une situation qui est quand même assez délicate au niveau de la riposte des collègues. Il faudrait faire une analyse longue et détaillée, je pense, de cette situation. Aujourd'hui, dans les établissements, on a un ras-le-bol général de tout ce qui se passe depuis un certain temps, mais là, c'est très grave ce qui se passe. Les collègues en ont ras-le-bol. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les collègues de collège sont très, très remontés. Donc, on a depuis février des collèges qui se mettent en collège mort. C'est des collèges qui se mettent... donc, c'est beaucoup... ça se fait avec l'aide des parents. Donc, les élèves qui ne vont pas à l'école, mais aussi des collègues qui sont en grève... Et donc, l'établissement ne peut plus fonctionner. Voilà, donc ça s'appelle des collèges morts. Ça se fait depuis février, hein, pratiquement. Voilà, il y a pratiquement un collège sur deux de la Gironde qui a fait au moins une journée de collège mort contre ce choc des savoirs. Voilà, donc, par contre, c'est vrai que par rapport à ça, par rapport au mouvement des retraites de l'année dernière, on a une certaine difficulté à rassembler, à mobiliser l'ensemble des collègues un jour ou plusieurs jours à la suite, parce que il y a une certaine rancœur par rapport à nos ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés et surtout à Gabriel Attal qui a pris le dossier en main. Et donc aujourd'hui, les collègues pensent qu'il est très difficile d'obtenir quelque chose par la manifestation. Donc, il y a une mobilisation des collègues qui est difficile. Voilà. Pour terminer, il y a une grogne très, très, très profonde sur ce choc des savoirs. Je peux revenir sur le fond de cette réforme, mais voilà, il y a vraiment aujourd'hui une casse du service public et une grogne très profonde des collègues de collège.
Et je crois qu'il y a quand même aussi une remise en question vraiment très grave de l'égalité de traitement des élèves au sein du service public d'éducation. Puisque avec ces groupes de niveau, finalement, on prévoit, et c'est inscrit dans le marbre, qu'un certain nombre d'entre eux, en tout cas, ne vont pas pouvoir avoir un cursus scolaire très long. Hein.
Oui, c'est ce que je disais en entrée. Hein, on casse le service public partout. C'est comme à l'hôpital aujourd'hui. Hein, voilà, quand on regarde les conditions d'accès à l'hôpital aujourd'hui entre principalement le monde rural et le monde urbain, et encore il faut des grandes villes, voilà, ce sera pareil pour l'école. L'école, c'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement des élèves soi-disant les moins bons qui sont vite sortis de l'école. Et toujours pareil, ce sont ceux qui sont dans les milieux les plus défavorisés, pas toujours hein, d'ailleurs, hein, mais d'une manière générale. Donc effectivement, là, on a une sélection par l'école sociale qui est absolument atroce et à combattre, voilà, face à un gouvernement qui est vraiment hyper élitiste. Hein. On a des réformes élitistes depuis 10 ans au moins, enfin en tout cas Macron, mais Parcoursup, le lycée, ça reste l'affaire en forme du lycée qui a été aussi une catastrophe sur la réussite des élèves, et maintenant la réforme du collège, on crée un stress énorme dans les familles, et effectivement elles ont raison, puisqu'elles vont être sélectionnées par leur niveau social, c'est tout. Hein.
On a vu que Parcoursup avait été un échec avec une panne et un bug énorme où les élèves de terminale n'ont pas pu, puisque le serveur était en panne. Enfin, c'est quand même assez lamentable la façon dont on traite donc nos élèves, nos jeunes, quoi. Et ça ajoute encore à leur mal-être. Hein.
Alors, Ouais, tout à fait. Alors, c'était par, pour revenir, ouais, Parcoursup, c'est exactement comme la réforme du collège. Je crois que ce gouvernement veut montrer qu'il fait un excès d'zèle sur l'égalité de réussite pour tout le monde. Mais en fait, il casse complètement la notion de rapport humain et de voilà de rapport humain et de enfin tout ce qui est en fait ce que fait la ce qui est le ce qui fait notre profession, c'est le contact avec les élèves. Et en fait, il est en train de casser tout ça avec des logiciels qui sont complètement aberrants et qui ne fonctionnent pas, qui sont complètement en dehors de tout. Aujourd'hui, la machine est incapable de faire correctement le travail, surtout que ça se fait que par les notes et par les appréciations. Et tous les profs savent que c'est surtout les appréciations et l'attitude de l'étudiant et de l'élève qui fait en fait sa qualité. Et par rapport au choc des savoirs, en fait, on a un hyper contrôle de l'élève et une hyper évaluation de l'élève. Voilà, ce qui peut se passer, il y a même des chefs d'établissement aujourd'hui, pour revenir sur le choc des savoirs, qui proposeraient de faire de la flexibilité. C'est-à-dire que chaque élève pourrait toutes les semaines changer de groupe de niveau. Voilà, en fait, on est comme si on était sur de la production d'un produit, quoi. C'est-à-dire que le produit, bon voilà, le client le veut bleu aujourd'hui, ben on va le faire bleu, on va le faire rouge si on veut rouge, etc. Et donc on a en fait un système de production mais d'objets, quoi. Et donc on est complètement sur un côté inhumain de l'éducation aujourd'hui.
Alors il voilà. y a plus de place.
C'est purement comptable, c'est ça, voilà. Et idéologique aussi, puisque je pense que nos hypercapitalistes là. Qui nous dirige, en fait, s'en foutent de savoir s'il y a de la misère et s'en foutent de savoir s'il y a de l'échec. Au contraire, plus il y aura de l'échec, plus il y aura de la main-d'œuvre pas chère. Ça va avec la loi immigration. Hein. C'est-à-dire que tout ça, ça va vers la baisse des salaires et l'augmentation de la précarité, du niveau social. Voilà, ça va très bien avec les idéaux de Macron aujourd'hui, d'une banque. D'un enseignement clé, quoi.
Et puis, peut-être qu'ils veulent en finir aussi avec un enseignement de qualité qui un peu ouvre oui. l'esprit des élèves, qui leur permet d'avoir un sens critique, qui les pousse. Plus on a une population cultivée et avec un haut niveau de connaissance, moins on a de chances de faire aboutir une dictature aussi. Hein.
Oui. Et puis vous mettez une petite guerre dessus, comme ça on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Oui, tout à fait, vous rendez compte, un enfant d'ouvrier qui peut devenir ingénieur, voire même plus, c'est pas possible. Voilà, il faut arrêter avec ce concept. Enfin, bon, ça c'est ce que pensent aujourd'hui nos dirigeants.
Et les professeurs, eux, ils se rendent bien compte qu'ils sont complètement instrumentalisés et que finalement on dénature complètement oui. le sens de leur métier. Et c'est pour ça qu'ils sont quand même les premiers en colère de cette situation.
Oui, tout à fait. Voilà, on ne peut plus enseigner comme on peut. Hein. On peut le faire. Mais ça, c'est tout ce qui a été mis en place aujourd'hui, c'est de l'hyper-contrôle des élèves et de l'hyper-contrôle des enseignants. Voilà, donc avec une liberté pédagogique de moins en moins grande, et donc une liberté pédagogique de moins en moins grande, ça veut dire de moins en moins de contact avec les élèves et évaluer en permanence pour rentrer dans les lignes bien droites et continue, voilà. Et on écarte tous ceux qui ne veulent pas y rentrer.
Et puis aussi, on a eu quand même Gabriel Attal qui a sorti des mesures ultra sécuritaires pour les élèves. On est revenu avec l'uniforme, les internats disciplinaires. Franchement, c'est quand même un retour en arrière. Moi, je dis, on revient avant 1968, quoi, en gros.
Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà, c'est ça. Ça tu l'as bien dit, hein, voilà. On marche à la baguette. Voilà. Donc, c'est marcher à la baguette, et toujours pareil, hein, c'est ceux qui ont, en fait, au niveau familial... plus de chances de réussir qui réussiront, voilà, et puis ceux qui sont le plus éloignés dans l'école qui seront écartés de l'école très rapidement. Il faut bien voir avec le choc des savoirs, le but, hein, c'est que des élèves qui ont des difficultés au collège ne travaillent dès la sortie du collège. Voilà. Y a un dispositif qui se prépare en lycée qui est en train de se monter pour compenser les effets pervers, donc tout ça, mais ça veut dire que c'est des moyens en plus, mais les moyens en plus, on les aura pas, on le sait très bien, puisque toutes ces réformes se font à moyens inconstants, voire en diminution des moyens par rapport au nombre d'élèves. Voilà. Donc de toute façon, voilà, il ne faut pas penser que ce gouvernement ne sait pas ce qu'il fait aussi. Aujourd'hui, en France, ce sont les profs qui sont les moins bien payés, ceux qui ont le nombre d'heures, l'un des pays où il y a le plus de nombre d'heures de cours, et en même temps, et là où c'est le plus grave, le nombre d'élèves le plus chargé par classe. Voilà. Donc ça veut bien dire que tout